France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
La vision du monde très sombre de Franz Kafka se double d'une vision plus qu'ambiguë de la femme. Ses personnages féminins sont souvent effacés ou vecteurs d'inquiétude, signe d'un monde absurde et proprement kafkaïen. De nombreuses approches critiques se sont attaquées à ce problème, notamment dans les années 70 et 80, où les critiques psychanalytiques et biographiques s'en donnaient à cœur joie. Il apparaît clairement dans la vie de Kafka que son rapport aux femmes fut toujours problématique. S'il se fiance 4 fois, dont 2 avec Felice Bauer, il ne se marie jamais, voyant le mariage comme l'aboutissement d'un idéal inaccessible, avec des mœurs bien plus archaïques que ses contemporains d'alors à Prague. Dans ce 6e épisode d'une journée consacrée par Jean Dave, Isabelle Huel et Jacques Taroni à Franz Kafka, diffusée pour la première fois le 17 septembre 1983, Louis-René Desforêts, Yann Cott, Félix Gattari, Marthe Robert, Alain Weinstein et Philippe Solers offrent leur interprétation de ce rapport à la femme de Kafka. D'une vie conjugale perçue comme un cauchemar dans ses lettres à Felice, à l'apparente misère sexuelle de l'auteur tchèque, Kafka et le monde féminin, c'est tout de suite dans les nuits de France Culture.
Pour Kafka, parler, écrire, c'est jeûner. Il y a une permanente obsession de l'aliment qui est l'animal, qui est la viande, obsession du boucher, des dents. Le champion de jeûne que nous lira le peintre Christian Boltanski, surveillé par des bouchers, achève sa carrière auprès des fauves qui mangent cru leur viande. Les chiens, comme nous l'a raconté David Flusser, occupe la bouche du chien des recherches à l'en remplissant de nourriture, afin qu'il cesse de poser ses questions. Quel rapport, me direz-vous, entre la viande et le monde féminin, thème qui couvrira la seconde partie de cette journée Franz Kafka? Eh bien, c'est qu'il se décrit à sa fiancée, Felice Bauer, comme extraordinairement maigre. Ayant besoin de sang, mon cœur, écrit-il, est si faible qu'il n'arrive pas à pousser le sang sur toute la longueur des jambes. Dès la première rencontre avec Felice, Kafka, végétarien, est attiré par ses bras musclés, riche en sang, effaré par ses grandes dents carnassières, alors que Milena apparaît comme un ange de la mort. Cette première rencontre inaugure l'enchaînement des ruptures kafkaïennes. Ces ruptures commencent presque avec la correspondance qui débute le 20 septembre 1912. Kafka écrit à Felice « Finissons-en, si notre vie nous est chère ». Puis, le changement ne cesse de s'aggraver. Le 23 mars 1913, il écrit « Ma vraie crainte, jamais je ne pourrai te posséder ». Ici, l'enjeu est la vérité. Comment convaincre Felice aujourd'hui, Milena plus tard, ou Grete Blok, ou Dora Diemant, de ce qu'il est, tel qu'il est, à cette profondeur de solitude. Et pratiquement, ce mouvement se traduit ainsi, tout dire, ou plus exactement, tout dévoiler, non seulement à elle, mais surtout à l'instance supérieure, au père de la jeune fille, et avouer, que faire, comment te faire croire l'incroyable. En fait, son amour pour Felice débouche sur le corps, sur la maladie. Au bout de 5 ans, ses poumons, lui écrit-il, se décident à venir en aide à sa tête. Et la tuberculose tranche enfin l'infernal conflit. Mais Felice deviendra personnage de roman. Frida, dans le château, et Mademoiselle Bürsner, dans le procès. Ainsi, Kafka aura-t-il découvert un certain type de subjectivité que nous pouvons appeler l'effet K, par lequel, comme nous le rappelle Félix Guattari, et les larges extraits du journal lus tout au long de cette seconde partie par Alain Weinstein et Anne-Marie Albiac, Franz Kafka remet en cause l'image de l'autre.
Je dis, elle n'est même pas fragment, elle n'est pas.
La femme ?
Oui.
Alors on ne peut pas dire qu'elle n'est pas. Elle est quand même. Elle est crainte, redoutée, oui. À vrai dire, c'est moins la femme qui est redoutée que la vie avec la femme. Autrement dit, la vie conjugale. Il y a là-dedans des pages tout à fait extraordinaires. Je crois que c'est dans la... Je ne me rappelle plus dans laquelle des correspondances, peut-être avec Milena, je ne sais plus.
Louis-René Desforêts.
Où il décrit tout au long, c'est pas la correspondance avec Milena, c'est...
Félitsch. Félitsch.
Oui, Félitsch, oui, c'est ça. Oui. Où il décrit ce que pourrait être leur vie conjugale. Une description extrêmement, d'ailleurs, concrète, parce qu'il décrit l'appartement, hein, avec les rideaux, enfin, les meubles, tout cela. Et c'est comme une description... Enfin, ça apparaît sûrement à ses yeux, mais même aux yeux du lecteur, dans la mesure où c'est décrit, enfin, de façon, disons, kafkaïenne, ça apparaît comme une espèce de cauchemar. J'avais d'ailleurs un peu l'intention de...
C'est dommage, vous êtes admirable, cette lettre.
Vous la connaissez, cette lettre,
oui.
Vous la connaissez.
C'est un peu la déception d'une cave, non ?
Un peu, oui.
C'est ça.
Un peu, oui.
D'un lieu assez voûté.
Et sombre.
Et sombre.
Mais sombre, surtout parce que c'est masqué un peu par des lourds rideaux.
Et où Félix lui apporte la nourriture, non ? Devant
oui,
la porte.
Oui, c'est ça, oui. C'est terrifiant. Alors, il faut penser que c'est une lettre qui n'est pas destinée à nous autres lecteurs, mais à elle-même. C'est donc, si vous voulez, une lettre cruelle.
Et vous voyez qu'il avait conscience de l'autre, de la personne à qui il écrivait ?
Ah, je pense que oui, là, je crois, moi, qu'il avait le sens d'autrui très fort, je crois.
Même en ce qui concerne la femme ?
Même en ce qui concerne la femme, oui. Ah oui.
Samedi encore. Ces lettres en zigzag doivent cesser, Milena. Elles nous rendent fous. On ne sait plus ce qu'on a écrit. On ne sait plus à quoi l'autre répond. Et de toute façon, on tremble. Je comprends très bien ton tchèque. J'entends aussi ton rire. Mais je me roule dans tes lettres entre le mot et le rire. Aussi, je n'entends que le mot. Et d'ailleurs, tout mon être est crainte. Voudrais-tu encore me voir après mes lettres de mercredi, jeudi ? Je ne peux pas m'en rendre compte. Je sais le lien qui me lie à toi. Tu fais partie de moi, même si je ne dois jamais te revoir. Je le connais dans la mesure où il n'appartient pas à ce domaine de la peur qu'on ne saurait embrasser du regard. Mais le lien qui te lie à moi, je ne le connais pas du tout. Il appartient tout entier à la peur. Tu ne me connais pas non plus, toi, Milena, je le répète. Ce qui m'arrive est quelque chose de formidable. Mon monde s'écroule et mon monde s'édifie. Examine, c'est à moi que je parle, examine ton attitude. De sa chute, je ne me plains pas. Il était en train de s'effondrer. Je me plains de son édification. Je me plains de mes faibles forces. C'est de naître que je me plains. C'est de la lumière du soleil. Comment vivrons-nous par la suite? Si tu dis oui à mes lettres-réponses, tu n'as plus le droit de vivre à Vienne, c'est impossible. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit, Milena. Pour moi, tu n'es pas une femme. Tu es une jeune fille. Je n'ai pas connu de jeune fille qui fût plus jeune fille que toi. Je n'oserais pas te rendre la main, petite fille. Cette main sale, tremblante, crochue, inconstante et mal assurée. Cette main glaciale et brûlante.
Pas facile hein, de parler de Kafka. Non ?
Vous parlez pour vous ?
Il semble que ce soit vrai pour vous aussi.
Pourquoi vous vous intéressez à Kafka, finalement ?
Je dirais presque paradoxalement, pourquoi est-ce que la matière écrite kafkaïenne s'est-elle intéressée à moi ? Je me suis pris dans Kafka. Il y a peu d'auteurs dans lesquels je me sois... pris les pieds de cette façon.
Félix Guattari.
Depuis mes premières lectures, étant adolescent, c'est comme un phénomène d'empreinte, d'imprégnation, printing. Ça constituait pour moi comme des lignes de cristallisation, de sensibilité, de représentation. J'ai pas un intérêt littéraire pour Kafka. C'est plutôt une...
Vous êtes bien passé par là, quand même.
Je suis passé par là, et d'une façon assez paradoxale, c'est que le premier schizophrène dont je me suis occupé était un jeune juif qui était totalement identifié à Kafka, au point de lui ressembler, au point d'être lui-même physiquement, se présenter comme les photos qu'on peut avoir, cette photo avec un petit chapeau rond. Et alors, un type très dissocié. Il restait pendant des heures, catatonique sur son lit, brûlé avec des cigarettes, et traîné partout. C'est un cas difficile, comme on dit. Et là, il n'y avait pas beaucoup de conversations possibles, j'avais trouvé l'issue qui consistait à le faire écrire. Il écrivait admirablement. Mais il écrivait du Kafka. Ça aussi, c'était une rencontre. Il dit, ah bon, bah alors, marchons comme ça, marchons avec l'effet Kafka. Là, j'ai l'impression qu'il y a une matière kafkaïenne, que Kafka est un des interprètes, non pas du kafkaïsme, parce que ça ferait tout de suite, ça renverrait à des références idéologiques. Ah oui, dans quelle époque, dans quel siècle vivons-nous ? Quelle tristesse, quelle misère ? Pas du tout. L'effet Kafka, c'est quelque chose de virulent, c'est quelque chose de qui véhicule un humour féroce, quelque chose qui remet en cause tout, les rapports à l'image de l'autre. On parlait des photos, mais les rapports à l'espace, les rapports au temps, c'est une sorte de modulation générale de toutes les coordonnées d'espace, de temps, de signification. Donc oui, je crois qu'il y a un effet K, et que Il a fait une grande découverte. Et Kafka, c'est un monsieur qui a découvert un effet cas, exactement comme les Curie ont découvert la radioactivité. Il a découvert un certain type de subjectivité mutante, là, qui était déjà en train de cristalliser dans cette société bizarre, paradoxale. C'était la Prague de cette époque-là.
Vous parlez de l'effet Kafka de votre patient, mais chez vous?
Mon patient, la schizophrénie de mon patient, mon propre processus schizo, celui de Kafka, moi j'aurais tendance à penser, à imaginer que tout ça, ça communique. Il y a une sorte de rapport de possession, de prise, d'empreinte encore.
Personne à l'appareil de l'autre côté. Alors ça, je crois que ça, c'est une vision de Kafka. De temps en temps, dans ce qu'on appelle la vie réelle, on a une impression nette, finalement, de devenir dans le monde de Kafka. Il y avait des années, j'étais une fois dans le parc pendant l'hiver. Il y avait des bains. Le parc était vide et les bains qui se sont approchés, comme les bains qui causent entre eux. Alors ce bain vide dans le parc qui est vide. Et ils ont commencé une conversation. Ça m'a donné une idée du monde étrange, insolite de Kafka.
Lundi. L'horaire des chemins de fer dit mieux que je ne pensais. Il faut souhaiter qu'il ne se trompe pas. Voici donc. Première possibilité, la plus mauvaise des deux de beaucoup. Je pars d'ici à 4h30 samedi après-midi. Je suis à Vienne le soir à 11h10. Et nous avons 7 heures à nous, car je repars dimanche à 7 heures du matin. Les 7 heures en commun supposent, à vrai dire, que j'ai un peu dormi pendant la nuit d'avant, tâche malaisée. Sinon, tu n'aurais devant toi qu'un pauvre animal malade. Deuxième possibilité, que l'horaire des chemins de fer a rendu magnifique. Je pars également à 4h12, mais je suis à Gmund le soir dès 7h28. Et si j'en pars dimanche par l'express du matin, ça ne sera qu'à 10h46. Nous aurons donc plus de 15 heures dont nous pourrons donner quelques-unes au sommeil. Mais c'est encore plus beau que tu ne penses. Je ne suis pas obligé de partir par l'express. L'après-midi, à 4h38, il y a un omnibus pour Prague. Ce sera ce train-là que je prendrai. Nous aurions donc 21 heures à passer ensemble et nous pouvons, imagine Milena, tout au moins théoriquement, les avoir toutes les semaines. Il n'y a qu'un hic, mais pas grave, je pense. De toute façon, il faudra te renseigner. La gare de Gmund est tchèque et la ville autrichienne. Pousse-t-on la sottise en matière de passeport au point d'en demander aux Viennois pour franchir le seuil de la gare, il faudrait que les gens de Gmund qui vont à Vienne aient eux aussi un pass avec le visa tchèque. Je ne puis y croire. Ce serait dirigé contre nous. Il est déjà bien assez ennuyeux que j'ai peut-être à attendre une heure à la douane avant de pouvoir quitter la gare et que nos 21 heures en soient réduites d'autant. À de si grandes choses, on ne saurait rien ajouter. Merci beaucoup, pourtant, encore, de ne m'avoir pas laissé sans lettre aujourd'hui. Mais demain, je ne téléphonerai pas, parce que c'est premièrement beaucoup trop bouleversant et secondement impossible. Je me suis déjà renseigné. Et parce que troisièmement, nous nous verrons bientôt. Malheureusement, Otla n'a pas eu aujourd'hui le temps d'aller pour nos passeports à la direction de la police. Elle ira demain. Avec les timbres, tu te débrouilles magnifiquement. Je ne sais malheureusement pas où j'ai mis ceux des lettres express. L'homme en aurait pleuré quand je le lui ai dit. Pour me remercier de ceux que je t'envoie, tu t'es rendu, à dire vrai, la besogne un peu trop facile, mais j'en suis bien content aussi, au point que je vais t'en envoyer, rends-toi compte, du légionnaire. Quant à raconter des histoires, je n'en ai pas envie aujourd'hui. Ma tête n'est plus qu'une gare, train qui part, train qui arrive, visite de douane, l'inspecteur en chef des frontières louche sur mon visa. Mais cette fois, il est bon. Ici, voyez, oui, c'est bien, voici la sortie. Auriez-vous l'amabilité, monsieur l'inspecteur en chef général des frontières, de m'ouvrir la porte vous-même? Je n'y puis parvenir. Peut-être suis-je si faible parce que Milena attend dehors. Mais je vous en prie, dit-il, c'est que je ne savais pas. Et voilà la porte qui vole, grande ouverte, devant nos pas.
J'ai eu une époque où j'ai eu une connaissance avec une fille et c'était assez difficile de se rencontrer. Alors on a changé de lettre, c'était, nous avons appelé cette lettre la lettre kafkaïenne, puisque la lettre était comment on peut se voir. C'est comme toujours dans la lettre kafkaïenne, il y a une chose, la lettre dans la gare, dans cet hôtel de la gare, à 3h20, non, à 5h30, il y a un rapide, il y a un express, et on ne se voit jamais. Alors c'était une très grande correspondance de fixer un rendez-vous, mais ce rendez-vous. Mais une raison ou d'autre, comme chez Kafka, ça n'existait pas. Alors, c'était le rendez-vous dans les lettres, ou les lettres sur le rendez-vous. C'était une correspondance Kafka.
Et les femmes romanesques, des nouvelles, des récits, sont identiques aux femmes réelles? Yann Cotte.
Je ne sais pas. Je crois que la relation la plus intime était avec cette dernière femme de Kafka. Presque dans ce dernier mouvement, quand il était avec elle, à Berlin, en Allemagne.
Dora.
Oui, Dora. Finalement, c'est peut-être le premier moment ou le dernier moment où il ne craignait pas d'être avec une femme, puisqu'il était tellement faible que quelqu'un devait être avec lui. Puis avant, c'était toujours quelque chose comme la peur d'être ensemble. Et c'est aussi l'attraction négative de la femme par la peur. C'est-à-dire un rendez-vous, on fait un rendez-vous pour ne pas venir. On joue avec l'imagination, mais c'est l'imagination, d'une certaine façon aussi, c'est le négatif qui remplace le positif. C'est la femme, non, la femme qui ne vient pas qui est la plus fascinante. La femme qui vient...
C'est un personnage phobique.
C'est-à-dire l'attraction de l'érotisme, mais c'est aussi c'est l'érotisme sans une présence physique, ou l'érotisme sans une présence continue. C'est-à-dire une femme doit venir et s'en aller.
samedi soir. Je n'ai pas encore reçu ta lettre jaune. Je te la retournerai sans l'ouvrir. Je me trompe bien s'il n'est pas bon que nous cessions de nous écrire. Mais je ne me trompe pas, Milena. Je ne veux pas parler de toi. Non parce que ce n'est pas mon affaire, c'est mon affaire. Mais je ne veux pas parler de toi. De moi seulement. Ce que tu es pour moi, Milena, ce que tu es pour moi au-delà de ce monde où nous vivons, n'est pas écrit sur les chiffons de papier que je t'ai envoyés chaque jour. Ces lettres, telles qu'elles sont, ne peuvent être bonnes qu'à torturer. Et si elles ne le font pas, c'est pire. Elles ne peuvent être bonnes à rien qu'à produire quelques jours un gmund, à susciter des malentendus et de la honte, une honte presque ineffaçable. Je veux te voir aussi nettement que la première fois dans la rue Elle. Les lettres m'en empêchent bien plus que la rue Elle avec tout son bruit. Mais ce n'est même pas là la raison essentielle. La vraie raison, c'est l'impuissance qui va s'accentuant dans nos lettres de sortir de ces lettres mêmes pour toi aussi bien que pour moi. 1000 lettres de toi, 1000 désirs de moi ne changeront rien à la chose. La grande raison, c'est cette voix irrésistible. C'est ta voix, oui, littéralement, qui me donne l'ordre de me taire.
Je vais encore vous poser une question vraiment générale. Je crois que vous ne les aimez pas beaucoup. Mais vous n'avez pas l'impression qu'il écrit toujours la même femme, dès le départ? Milena, Félix, Otla. Que le... Je veux dire, cette tentative de dialogue est tout à fait sans nuance.
Évidemment. En vous faisant ma réponse, j'ai peur de donner l'impression de basculer toujours dans le paradoxe. Et moi, j'ai l'impression qu'il, non seulement il décrit toujours la même femme, mais il ne décrit aucune femme.
Félix Guattari.
Je serais plutôt tenté de parler d'un devenir femme, qui est en même temps un devenir animal. Parce que Felice est une femme. C'est un problème. Alors si déjà on ne peut pas établir, attester que Felice soit une femme, alors comment dire qu'il décrit toujours la même femme? Difficile de parler de homme, femme, enfant, alors que justement ces coordonnées intersubjectives ne sont pas du tout établies. Parce qu'à ce moment, on peut dire aussi qu'il décrit toujours le même lieu. Mais c'est la notion même de lieu, de personne, de différence de sexe qui se trouve, je n'aime pas non plus beaucoup l'expression, et plus à la mode, mais déconstruite.
De toute façon, il me semble que le devenir animal est beaucoup plus évident que le devenir femme.
C'est pas un changement de sexe. Mais il me semble que il a ciblé quelque chose qui serait une femme. En tout cas, un autre. Quelque chose qui serait un autre désirable, lui, encerclé qu'il était, dans son monde d'écriture, de pôles familiaux totalement intégrés dans son écriture. C'est comme s'il y avait un rapport despotique qu'on voit alors éclater dans la lettre au père. Bon, dans cette espèce de monde au sein duquel il est encerclé, il y a un point de fuite. Ça serait une femme. Je serais amoureux d'une femme. Ça serait justement celle-là. D'autant plus celle-là qu'elle n'est pas à proximité et qu'elle ne vient pas me déranger quand je travaille, etc. D'autant plus qu'elle est à Berlin ou qu'elle est ailleurs et que je peux donc faire fonctionner à plein tuyau la machine de lettres, la machine d'écriture, la machine épistolaire. Alors, le devenir femme, là, c'est donc pas devenir quelqu'un de castré, quelqu'un qui est une qui se rapporterait à un pôle identificatoire maternel. Non, pas du tout. C'est littéralement inventer, produire une altérité féminine, mais là, entre guillemets, on peut appeler ça une femme à la 6-4-2, mais en tout cas qui a l'immense intérêt de déclencher quelque chose d'extraordinaire, à la fois d'extraordinaire du point de vue de la machine d'écriture et aussi d'extraordinaire du point de vue de la panique que ça crée dans toute la vie affective. C'était une mobilisation à plein temps à ce moment-là quand il y a une passion de ce type qui se déclenche. Donc je dis, si on résume tout ça en une phrase, c'est un devenir femme, c'est une production de femme, c'est une femme en train de se faire, une invention de femme. Pas clair.
Et pourquoi mettez-vous en relation le devenir femme et le devenir animal?
Parce que je pense que je mets surtout l'accent sur la notion de devenir. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune entité qui soit attestable dans des coordonnées bien précises. Il y a quelque chose. Ça peut être Dradek, ça peut être une machine diabolique, ça peut être un son, un bruit. C'est quelqu'un, il y a une présence, il y a un portrait, quelque chose dans le haut de l'église. C'est une femme, c'est un animal. Ce qui compte, c'est l'instant, la saisie de quelque chose en train de devenir, en train de se mettre à exister, et pas, je le disais tout à l'heure, pas exister sur le mode du flou, mais à exister avec une telle intensité que ça capte toutes les autres possibilité de penser à autre chose, de s'intéresser à autre chose. Toute la subjectivité se concentre sur un point focal. Donc c'est le processus du devenir. Alors, bon, finalement, que ça prenne l'allure d'une femme, d'un adolescent, d'un accent étranger, ça peut devenir un accent de quelque chose qui serait en Amérique, quelque chose qui serait en Russie, quelque chose qui serait vers l'Afrique, quelque chose qui serait... Bon. Autant le processus peut paraître vague dans sa finalité, dans sa téléologie, autant sa saisie est précise dans la mesure où il anime, relance cet effet-là, ce devenir, cette production, disons, à l'état naissant de subjectivité. Production et en même temps découverte. Évidemment, Kafka ne porte aucun intérêt, n'a aucune intention, aucune volonté, aucune détermination qui le pousse vers une femme plutôt que vers un homme, un chien ou une plante ou quoi que ce soit d'autre. Simplement, il y a ce phénomène de christianisation qui l'envahit, l'exproprie de lui-même, s'impose à lui. Mais il n'y a pas une recherche, il ne recherche pas un modèle féminin, ça je ne pense pas du tout.
Vous savez peut-être ce que disait Einstein un jour que Thomas Mann lui avait prêté le château. C'était en Amérique et Thomas Mann a écrit une préface pour le château dans sa traduction américaine. Et il l'a donné à lire à Einstein qui lui aurait répondu « Je vous le rends, c'est trop profond pour qu'une intelligence humaine puisse le comprendre. » Et c'était naturellement, si c'est dit par Einstein, ça ne manque pas de saveur naturellement. Le château est commencé en 1920.
Marthe Robert.
En 1920, Kafka est malade. Il est tombé malade en 1917, n'est-ce pas ? Il s'est soigné pendant quelques temps chez sa sœur Otla, justement en Bohême, à Zürau. Et puis ensuite, il a été se reposer dans différents endroits. Il a, pour la première fois, disons, connu les paysans tchèques. Qu'il ne voyait évidemment pas à Prague, pour la bonne raison qu'il n'y avait pas de paysans à Prague, et qu'en plus de ça, il ne fréquentait pas, dans son milieu immédiat, il ne fréquentait pas les Tchèques, n'est-ce pas ? En 1920, l'Empire austro-hongrois s'est effondré, la République tchécoslovaque a été proclamée. En principe, donc, sa situation aurait dû changer. En fait, elle n'avait pas changé. Par un certain côté, même, elle avait empiré. C'est pas parce que ça, tout de suite après la proclamation de la République tchécoslovaque, il y a eu de graves troubles antisémites à Prague, n'est-ce pas ? Et tout de même, Kafka le dit avec beaucoup de tristesse et de courage d'ailleurs, après la proclamation de la République, alors qu'il y avait des juifs avant dans sa compagnie d'assurance, après il était le seul. On a gardé. Que lui, n'est-ce pas ? Et il y avait donc une situation qui ravivait justement à ce moment-là toute cette question de l'exil, tout ce problème du déracinement qui est absolument au centre de tout, n'est-ce pas ? Qui est au centre de son œuvre. Alors, qu'est-ce que l'on voit là ? On voit un homme qui vient d'ailleurs. Il dit lui-même qu'il vient d'ailleurs, il ne dit pas d'où. Alors, moi, je traduis. Il vient justement de ce fin fond de la solitude intérieure où Kafka vit à ce moment. Et il va dans un village, il arrive dans un village dont on lui dit qu'il est gouverné par un certain château. Bon, un château qui appartient, lui dit-on, il ne le verra jamais bien entendu, mais un château qui appartient à un certain comte West-West. C'est le château de l'extrême occident, on ne veut pas le dire plus clairement. C'est donc K qui prétend être arpenteur. Il n'a pas d'outils, il n'a pas d'instruments, il n'a rien. Il arrive comme un vagabond. Il est absolument comme un vagabond, il n'a même pas de petit baluchon. Il est à moitié loqueteux, enfin on ne décrit même pas son aspect, mais les gens le prennent absolument pour un vagabond. Et qui prétend qu'il est appelé. Qu'il a été appelé, qu'il a été convoqué comme arpenteur par les autorités du château. Alors, tout se noue autour de ça. Les autorités répondent d'abord qu'elles ne l'ont jamais convoqué. Ensuite, elles reconnaissent qu'effectivement, il y a des années, il avait été convoqué et puis qu'on était revenu sur la décision. Enfin, bref, lui insiste, il veut entrer au village, s'installer au village, y prendre femme et exercer son métier d'arpenteur. Bon, un conflit donc entre cet individu, absolument seul, personne ne le soutient, qui vient d'on ne sait d'où, pour s'assimiler au village en question, pour s'assimiler à la vie de ces gens qu'il n'aime pas, d'ailleurs, qu'il ne lui plaise pas tellement. Il les décrit avec beaucoup de certaines méchancetés. Mais il pense que quand il aura réussi à être pareil à eux, Peut-être qu'à ce moment-là, il lui sera plus facile d'arriver jusque dans les hautes sphères du château. Autrement dit, il décrit là le processus d'assimilation qui est, pour les Juifs de son époque, n'est-ce pas, qui passe pour être réussi, qui passe pour être achevé, qui passe pour être fait. Bon. Eh bien, donc, justement, c'est ça. C'est une des couches de lecture dont je parlais tout à l'heure. On peut voir dans le château, justement, transformé ironiquement en épopée, n'est-ce pas, parce que c'est une véritable épopée, cette histoire de l'arpenteur, qui dure 8 jours, très classiquement, dans un seul lieu, avec une seule intrigue, n'est-ce pas, c'est très très classique. On voit là un homme qui veut se faire accepter par une communauté qui ne veut pas de lui, en gros. Techniquement, c'est une espèce de copie d'épopée, c'est une imitation d'épopée, qui en réalité se réduit en conversation, n'est-ce pas ? Au lieu d'avoir les aventures d'Ulysse, n'est-ce pas ? Ce grand voyageur qui vient d'on ne sait où et qui repartira, on ne sait où, il ne repartira pas d'ailleurs, il va rester là. Au fond, transforme chaque conversation en aventure, n'est-ce pas ? Il y a ces conversations avec l'hôtesse de l'auberge du pont, ses conversations avec Frida, la femme avec laquelle il a tout de suite une aventure en arrivant au village, n'est-ce pas, il couche avec elle dans les flaques de bière derrière le comptoir de l'auberge, je ne sais pas si vous vous souvenez, tout est interverti, il couche avec elle avant de la connaître, et ensuite il aime et veut l'épouser. Bon, donc il a cette aventure qui en est une vraie, mais autrement, il s'informe, n'est-ce pas, cet arpenteur, son métier est fort bien choisi. Il arpente le réel qu'il a sous les yeux, le présent qu'il a sous les yeux, pour essayer de comprendre les tenants et les aboutissants de tout ça, n'est-ce pas ? L'arpenteur, c'est quelqu'un qui ne peut pas commencer à travailler avant d'avoir compris ce qu'est ce monde, ce qu'est le château. Alors, il s'informe auprès des femmes qui ont couché avec les messieurs, n'est-ce pas, les hauts fonctionnaires du château. Il s'informe auprès du maire, de la femme du maire, d'une famille qu'on appelle la famille Barnabé, de son messager, car on lui donne un messager. On feint de lui envoyer un messager. Il s'informe auprès de tous ces gens et ça forme chaque chapitre constitue une étape de cette énorme investigation qui va l'amener, il l'espère, à rencontrer un monsieur du château pour lui demander ce qu'il en est de tout ça. Et puis, son mariage avec Frida échoue à cause des commérages. Il n'entend rien de précis et de clair sur ce château. Tout ce qu'on lui dit est contradictoire. Ce sont surtout des racontars de femmes, il faut bien dire. Ce sont les femmes qui ont une expérience du château parce qu'elles couchent avec les messieurs en général ou qu'elles ont dans le temps couché avec un personnage particulièrement important. Mais quant à savoir exactement comment ça fonctionne, ce qui se passe, pourquoi il a été nommé et pourquoi ensuite on ne veut pas de lui, pour ça, il n'arrive pas à le savoir et il continue ses investigations juste au moment où, dans un bureau de l'auberge, parce que les messieurs couchent à l'auberge parfois, n'est-ce pas ? Ils ont tellement de travail qu'ils ne rentrent pas au château. En vérité, on ne voit personne aller au château, n'est-ce pas ? C'est complètement mythique, ce château. On comprend tout de suite après pourquoi. Il entre dans une pièce de l'auberge et il trouve un fonctionnaire couché dans le lit. Qui lui dit « entrez donc ». Et qui lui tient un discours absolument extraordinaire pour lui expliquer à quelles conditions quelqu'un qui veut savoir à quoi s'en tenir sur le fonctionnement de tout cela peut effectivement l'obtenir. Il faut, par exemple, trouver un fonctionnaire dans une situation tout à fait à part. Par exemple, s'il est couché dans son lit. Par exemple, s'il est tout seul avec son client. Par exemple... Et à ce moment-là, l'arpenteur, épuisé, complètement épuisé, s'endort. C'est-à-dire qu'au moment même où un fonctionnaire lui explique à quelles conditions il pourrait éventuellement savoir effectivement ce que c'est que cette administration, il lui retrace exactement la situation dans laquelle ils sont tous les deux. Surprendre un fonctionnaire sans aucun témoin aux petites heures de la nuit, c'est exactement le cas. Et là, l'arpenteur s'endort, il n'en peut plus. D'ailleurs, Frida, avec qui il a vécu dans des conditions inimaginables dans une salle d'école, dans une salle de classe. Frida le quitte et les aides qu'on lui a confiées, qu'on lui a envoyées, le quitte également, se plaint, hein, en tout cas des deux, se plaignent d'avoir été martyrisés par lui. C'est vrai qu'il en a maltraité un. Et le quitte également. Et puis s'aperçoit que Frida, finalement, va vivre avec l'un des deux aides qui s'appelle Jérémy. Bon, ne sachant plus trop quoi faire, il erre dans une salle de l'auberge. Et il voit à ce moment-là, c'est le matin. Il a donc passé la nuit chez Burgel, chez ce fonctionnaire qui voulait tout lui dire. Et les messieurs commencent à s'éveiller, on commence à entendre du bruit, on commence à entendre... Et là, alors, il s'aperçoit que les messieurs font le chant du coq. Ils saluent l'aurore. Et puis, arrivent des petites voitures dans le couloir, traînées, des sortes de petits wagonnets. Ce sont les dossiers qu'on transporte d'une chambre à l'autre, d'un étage à l'autre, les dossiers sur lesquels sont écrits tout ce qui concerne évidemment les individus. Et lui, il voit, à la suite d'un petit après, le passage d'un petit wagonnet, une petite feuille, une toute petite feuille. Et il se dit, c'est mon dossier, évidemment, sur son dossier à lui. Il n'y a rien, pour ainsi dire. Et c'est comme ça que le roman finit. Il est inachevé, n'est-ce pas ?
À mon avis, c'est depuis le libertinage qu'il faut essayer d'interroger l'œuvre de Kafka. Je crois même que l'effet massif, mythologique, que son œuvre a produit, dans le genre sombre, métaphysique, vertigineux, fondamental, radical. Et tous les commentaires qui se sont développés à ce sujet ont pour principal objet de ne pas poser la question de Kafka, libertin empêché.
Boulevard de Port-Royal, Paris, Philippe Solers.
En ne posant pas cette question, on évite du même coup de se demander de quelle effroyable misère, non pas métaphysique, non pas vertigineuse, non pas prophétique, non pas messianique, non pas religieuse ou pré-religieuse, mais sexuelle, Kafka a témoigné pour son temps. Un temps d'effroyable misère qui fait que Casanova ou Don Juan, que Kafka, bien entendu, a toujours rêvé d'être, se trouve cantonné dans le désespoir et l'absence de perspective, qui est celle de tout le siècle où il se trouve, et des habitants de ce siècle. Le château, ça n'est rien d'autre que le constat de l'impossibilité désormais de pouvoir agir le libertinage. Toute autre lecture est évidemment tout à fait erronée et intéressée. Une lettre à Milena, donc, qui est la suivante. Elle écrit. Elle fait partie des commencements du déferlement de la littérature féminine. Et il lui écrit ceci un mercredi. Connais-tu l'histoire de Casanova quand il s'évade des plombs de Venise? Oui, tu la connais. Il y esquisse un tableau de la vie de Cachot au fond des culs de Basse-Fosse, dans le noir et l'humidité, au niveau des lagunes. On croupit sur une planche, l'eau arrive presque à la hauteur de cette planche et monte encore avec la marée. Mais le pire, ce sont les rats d'eau, féroces. On les entend piauler. Ils tiraillent, ils déchirent, ils rongent. On leur dispute le pain, je crois. Et surtout, ils attendent. Ils attendent avec impatience qu'on tombe de la planche à bout de force. Voilà le genre de tes histoires. Effrayantes, inconcevables, et surtout à la fois aussi proches et aussi lointaines que l'est à l'homme son passé. On croupit en haut sur la planche, ce qui ne donne pas au dos une ligne bien gracieuse. Les pieds sans qu'il ose également, on a peur et pourtant on n'a rien d'autre à faire que de regarder les gros rats noirs. Ils vous crèvent les yeux au milieu de la nuit et finalement on ne sait plus si on est en haut ou en bas. On piaule comme eux et on ouvre une grande bouche avec les dents qui se voient au fond. Allons, allons, ne raconte pas de pareilles histoires. À quoi rime-t-elle? Allons, allons, je te pardonnerai ces bestioles à une seule condition, que tu les chasses de chez toi.
Oui, bien sûr. Enfin, quelle est la narration du château? Comment s'y est pris Kafka pour raconter cette histoire? Quels sont les points d'appui?
Pour raconter l'histoire de l'impossibilité du libertinage. Kafka ne parle que de ça. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un sujet de la narration entièrement positif dans ses calculs et qui peut à chaque instant être maître du jeu des masques et mesurer tout l'état des corps qui se trouvent autour de lui d'après le savoir-faire de la technique libertine, on a tout au contraire, tout à l'envers, en ce cas ça revient au même, un sujet de la narration passif, obligé d'arpenter, c'est le cas de le dire, l'absence de toute vérité sexuelle du lieu où il se trouve, et ça devient un traité géométrique dans la mesure où, au départ, cette inessentialité, cette pesanteur pourrait avoir sa réponse dans un centre éloigné qui se refuse, mais que petit à petit, ce qui se dévoile, c'est qu'il n'y a ni vampire, ni comte, ouest-ouest, ni marquis, ni aristocratie, et par conséquent, ni perruque, ni bal, ni fête, ni balançoire, ni plaisir d'aucune sorte, et qu'en réalité toute la démonstration va en arriver à travers les femmes, bien entendu, puisque les femmes sont en rapport avec le château, n'arrête pas de le souligner Kafka, c'est elles qui savent, elles savent rien. Mais enfin, elles sont censées savoir. Par conséquent, c'est sur elles qu'il faut faire le prélèvement et l'analyse du savoir du lieu, petit à petit, dans la féminisation de ce sujet de la narration, on va en arriver au dévoilement ultime qui est qu'il ne se passe absolument plus rien que des événements périphérique, sans centre, et c'est pour ça que le château, c'est la démonstration que désormais le centre est partout et la circonférence nulle part, et ce centre, il s'agit tout simplement de la superficialité absolue, c'est-à-dire de la fanfreluche. C'est le trajet absolument inverse de celui du libertin qui part de la fanfreluche qu'il a fait mousser pour en arriver à l'essence. De l'apparence à l'essence, de l'essence à l'apparence, tout est devenu apparence, c'est-à-dire robe. Et ici, je crois que on n'a pas vraiment abordé la représentation des femmes dans le château, par conséquent, on ne parle pas du château. Il est du plus grand intérêt pour tous les tartineurs de métaphysique inutile d'éviter de lire ce roman, c'est-à-dire la question qui est ici la principale. On peut prendre pour démarrer la démonstration une note de Kafka, qu'il a écarté de sa rédaction, mais qui dit exactement ce que j'essaye de suggérer. Frida attend aussi, mais elle n'attend pas K. Elle observe l'hôtel des messieurs, et elle observe K. Elle n'a pas d'inquiétude à avoir, sa situation est meilleure qu'elle ne s'y attendait elle-même. Elle peut voir sans envie Pépi s'évertuer et croître en considération, elle fera cesser la chose à temps. Elle peut également voir en toute sérénité comment K se comporte loin d'elle. Elle ne permettra jamais à ses vagabondages d'aller si loin qu'il la délaisse entièrement. Le château, c'est la démonstration, on pourrait dire, en forme de commentaire réaliste à la Cervantes, si on veut, des conséquences de la Révolution française, à savoir qu'on tombe du comte, C-O-M-T-E, au pouvoir de l'hôtelière. À ce moment, la porte s'ouvrit. Pépi en eut un frémissement. Ses pensées l'avaient trop éloigné du débit. Mais ce n'était pas Frida, c'était l'hôtelière. Elle fit semblant d'être étonnée de trouver encore K dans la salle. Il s'excusa en lui disant qu'il était resté pour l'attendre et la remercia en même temps d'avoir pu passer la nuit là. L'hôtelière ne comprit pas pourquoi il l'avait attendu. K dit qu'il avait eu l'impression qu'elle voulait encore lui parler et lui demanda pardon si c'était une erreur. D'ailleurs, maintenant, il devait partir. Il avait abandonné trop longtemps l'école où il était concierge. C'était l'invitation de la veille qui avait été la cause de tout. Il lui manquait l'expérience de ces choses. Maintenant, on ne le reverrait jamais causer de tels ennuis à Madame l'hôtelière. Et il s'inclina pour partir. L'hôtelière le regarda comme si elle le voyait en rêve. Et ce regard le retint plus qu'il n'eût voulu, d'autant plus qu'elle sourit un peu et ne revint à elle que devant son étonnement. On aurait dit qu'elle avait attendu qu'il répondît à son sourire et qu'elle s'éveillait, faute d'écho. « Je crois, dit-elle, que tu as eu hier le front de parler de ma toilette ?» K n'en avait aucun souvenir. « Tu ne te rappelles rien, dit-elle, après la lâcheté, l'effronterie ?» K s'excusa sur sa fatigue de la veille. Il avait bien pu lui échapper une parole inconsidérée, mais il n'en avait pas mémoire. Qu'aurait-il d'ailleurs bien pu dire de la toilette de Madame l'hôtelière, qu'il n'en avait encore jamais vue d'aussi belle, ou du moins qu'il n'avait jamais vu d'hôtelière ainsi vêtue pour travailler. « Cesse tes réflexions, dit l'hôtelière, je te défends de dire un seul mot sur mes vêtements. C'est un sujet qui ne te regarde pas. Je te l'interdis une fois pour toutes. » K s'inclina de nouveau et se dirigea vers la porte. « Que veux-tu dire ?» lui cria l'hôtelière. « Quand tu racontes que tu n'as jamais vu une hôtelière ainsi vêtue pour travailler, que signifient ces remarques absurdes ? Car elles sont complètement absurdes. Qu'entends-tu par ces réflexions ?» K se retourna et pria l'hôtelière de bien vouloir ne pas s'irriter. Sa remarque n'avait aucun sens. Il n'entendait d'ailleurs rien aux vêtements. La moindre robe propre et sans reprise, dans sa modeste situation, lui faisait déjà l'effet d'une toilette magnifique. Il avait été étonné, la nuit passée, de voir Madame l'hôtelière apparaître dans le couloir en si belle robe du soir, au milieu de tous ces hommes encore à peine vêtus. Il n'y avait pas d'autre mystère. Eh bien, tu vois, dit l'hôtelière, tu as l'air de finir par te souvenir de ton observation d'hier soir. En y ajoutant de nouvelles âneries, que tu n'entends rien aux vêtements, ça, c'est exact. Mais alors, je t'en prie, sérieusement, cesse de juger de ce qui est une riche toilette ou une robe du soir déplacée et autres détails du même genre. D'une façon générale, elle eut comme un frisson. Cesse à jamais de t'occuper de ma toilette. Tu as entendu ? Et puis, K, se taisant, prêt à faire demi-tour, elle lui demanda. Où as-tu pris ta science des costumes ? Kafka haussa les épaules. Il n'avait pas de science. Non, en effet, tu n'en as pas, dit l'hôtelière. Ne t'avise donc pas de t'en attribuer une. Viens au bureau. Je te ferai voir quelque chose qui rabattra, je l'espère, ton caquet pour longtemps. Elle passa devant. Pépi rejoignit K d'un bond et, sous prétexte de lui faire régler sa note, convint lestement avec lui d'un rendez-vous pour la soirée. Ce fut facile. K, connaissant la cour, dont le portail donnait sur une rue latérale, à côté de ce portail, il y avait une petite porte. Pépi serait derrière dans une heure. K n'aurait qu'à frapper trois coups pour se faire ouvrir. Le bureau personnel des patrons se trouvait en face du débit. Il n'y avait que le couloir à traverser. L'hôtelière était déjà dans la pièce éclairée et regardait K avec impatience. Mais ils furent encore dérangés. Gerstacker était dans le couloir attendant K pour lui parler. Il ne fut pas facile à chasser. L'hôtelière dut intervenir et lui reprocher son importunité. La porte était déjà refermée, qu'on entendait le malheureux crier encore « où donc ?» demandait-il, et ses paroles se mêlaient hideusement à ses soupirs et à sa toux. La pièce où se trouvait le bureau était petite et surchauffée. Contre les murs les plus courts, il y avait un pupitre à écrire debout, et un coffre-fort en métal. Contre les plus longs, une ottomane et une armoire. C'était l'armoire qui prenait le plus de place, car non seulement elle occupait toute la longueur de l'un des murs, mais elle avançait dans la pièce au point de la rendre très étroite. Il fallait trois portes à glissière pour pouvoir l'ouvrir complètement. L'hôtelière pria K de s'asseoir sur l'ottomane et s'installa elle-même sur un fauteuil tournant qui était placé devant le pupitre. « Tu n'as même pas appris le métier de tailleur ?» dit-elle. « Jamais, » répondit K. « Quelle est ta profession ?»« Arpenteur. Qu'est-ce que c'est ?» K le lui expliqua. L'explication la fit bâiller. « Tu ne dis pas la vérité. Pourquoi ne la dis-tu pas ?»« Tu ne la dis pas non plus. Moi ?» Voilà que tu recommences avec tes insolences. Et quand bien même je ne dirai pas la vérité, ai-je à t'en rendre compte? Et en quoi ne la dis-je pas? Tu n'es pas une simple hôtelière, comme tu le prétends. Voyez-vous ça, le beau je sais tout. Et que suis-je d'autre à ton avis? Ton toupet commence réellement à passer l'imagination. Ce que tu es d'autre, je n'en sais rien. Tout ce que je vois, c'est que tu es hôtelière et que tu portes des toilettes qui ne sont pas faites pour ce métier et que personne ne porte au village. Nous en venons donc tout de même au fait. Tu ne sais rien taire. Peut-être n'est-ce pas effronterie. Tu es peut-être seulement comme un enfant qui a appris quelques sottises et que rien ne peut t'empêcher de la dire. Hein? Eh bien, parle. Qu'est-ce qu'elles ont, mes toilettes ? Que leur trouves-tu de particulier? Tu m'en voudras si je le dis. Non, non, j'en rirai. On rit des propos d'un enfant. Alors, qu'ont-elles? Tu veux le savoir? Je trouve leur tissu excellent, la matière première est parfaite, mais elles sont démodées, surchargées, retouchées, râpées. Elles ne conviennent ni à ton âge, ni à ta silhouette, ni à ta situation. J'en ai été frappé dès notre première rencontre, dans ce couloir même, il y a 8 jours. Ainsi nous y voilà. Mes robes sont démodées, surchargées, et puis quoi encore? Et d'où le sais-tu? Je le vois. Tu le vois? Tu le vois tout court. Il te suffit de tes yeux. Tu n'as besoin de demander nulle part. Tu sais d'instinct ce qu'exige la mode. Sais-tu que tu vas m'être précieux? Tu vas me devenir indispensable. Car j'ai un faible, je l'avoue, pour l'élégance. Que vas-tu dire en voyant cette armoire pleine de robes? et ouvrant le meuble tout grand, elle en découvrit une armée serrée, pressée l'une contre l'autre, qui occupait toute la profondeur et toute la longueur de l'armoire. Des robes foncées, pour la plupart grises, brunes ou noires, pendues avec grand soin et sans aucun faux pli. Voilà mes robes, ces toilettes démodées, ces habits surchargés, suivant ton expression. Et s'il n'y a là que celles qui ne peuvent pas tenir dans ma chambre, j'en ai encore là-haut deux armoires qui sont pleines, deux armoires dont chacune est presque comme celle-ci, tu es étonné ? Non, lui répondis-je, je m'attendais à quelque chose de ce genre. Je disais bien que tu n'es pas une simple hôtelière. Tu cherches autre chose que l'hôtellerie. Je ne cherche rien. Je ne cherche qu'à être bien mise. Et tu es un fou, ou un enfant, ou un homme méchant et dangereux. Va-t'en, et dépêche-toi de filer. K était déjà dans le couloir. Augustaker l'avait rattrapé par la manche. Quand l'hôtelière cria encore, « Demain, j'aurai une nouvelle robe. Je t'enverrai peut-être chercher. »
C'était le 6e de 9 épisodes d'une journée Franz Kafka par Jean Dave, Isabelle Huel et Jacques Taroni, diffusée pour la première fois le 17 septembre 1983, avec Louis-René Desforêts, Yann Cott, Félix Gattari, Marthe Robert, Alain Weinstein et Philippe Solers. Téléchargement et réécoute sur le site de France Culture, à la page des nuits, et sur l'application Radio France.